Alors,
De l'université qui va être distribuée. Donc, vous aurez toutes les informations sur cette université d'économie des arts qui, je le répète, commence le 8 octobre.
Le 8 octobre. Avant de distribuer et de nous disperser, parce qu'on connaît le pouvoir du petit papier que vous allez recevoir, la parole est maintenant aux auteurs et autrices et à vous, dans un échange que nous voudrions le plus spontané possible. Donc, il y a des micros qui circulent et vous pouvez commencer à poser des questions. Et tout auteur ou autrice qui se sentirait prêt ou prête à prendre la parole est désormais libéré par les capitaines Gerti et Françoise. Le débat est animé par Claire Stavo. Donc, elle relancera, reposera des questions comme elle veut. Voilà.
Est-ce que certaines ou certains ont déjà envie d'intervenir spontanément ? Ou je lance par une petite question ? Je lance ? La question qui est au cœur de tous ces questionnements, de ces lectures, également de ce qu'a dit Françoise, ce qu'a répété Françoise, c'est certainement la question de l'enjeu est celui de la mémoire, et c'est évidemment aussi la question donc de la réappropriation de sa mémoire et de la nécessité d'écrire ses propres narrations pour une connaissance de soi et pour mieux connaître son histoire. Et vraiment, moi, ce qui m'a frappée à la lecture, j'ai eu la chance d'être parmi les premières lectrices de ces textes, ce qui m'a frappée, c'est la permanence de ce besoin, de cette nécessité de se réapproprier une mémoire et une connaissance de soi par le récit, le besoin de narration. Sam Mohamed Ghelati, par exemple, pour commencer avec mon voisin, vous parlez, vous, de ce besoin de se raconter, votre part de récit.
Oui, parce que donc moi, je fais plutôt du théâtre. Hein, j'écris, je joue, je mets en scène. Et c'est vrai que j'étais plutôt volontaire pour être français. Donc un jour, j'ai choisi d'être français, en fait. Et je me suis dit, voilà, je m'inscris dans une histoire. Et bon, voilà, j'ai eu la chance de faire quelques études. Et puis, donc, je vais vous dire une grosse banalité. Oui, en effet, l'histoire coloniale n'est pas enseignée à l'école. Donc, j'ai suivi ça. J'ai fait ce petit parcours personnel de découverte de pas mal d'auteurs, d'ailleurs, dont certains ont été cités. Voilà, il faut que je fasse court. Voilà, comme... et un jour, j'ai commencé à voir ma propre histoire racontée par ces auteurs. Par le prisme de Fanon, de Césaire, d'Edouard Saïd, enfin voilà, toutes ces choses-là m'ont construit, m'ont reconstitué. Et c'est comme si tout d'un coup j'avais une part de moi-même qui venait se rajouter là. Et je me suis dit, mais j'ai envie de raconter ça, et de raconter ça pas seulement aux gens comme moi, mais raconter ça à toute la multiplicité des entités françaises, raconter ça à ceux qui étaient à l'école avec moi, les petits Français blancs, voilà, et puis d'autres, voilà. Donc c'est pour moi essentiel que ce pays puisse avoir cette part du roman national qui manque terriblement.
On pourrait demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole. Le micro va circuler. Levez le doigt, sautez, criez, faites-vous entendre. Tout est... Libérez-vous, décolonisez-nous. Voilà, allons-y.
Bonsoir. Alors, je me permets de prendre la parole en tant que cinéaste. Et c'est drôle parce que juste avant, il y avait des assises, il y a une semaine au CNC, concernant la parité. Les femmes cinéastes qui voilà, se sont un peu on sait, puisque j'en fais partie, on s'est un peu voilà, mise en colère parce qu'on n'était justement pas très prise au sérieux et pas très présente dans le cinéma français, aussi international. Et on était quelques-unes à rappeler que dans cinéma féminin, il y avait aussi cinéma de la diversité. et que de diversité, on s'est retrouvé dans encore plus minoritaire, puisqu'il fallait à présent inventer un autre terme qui était au sein même de la diversité. Donc évidemment, c'est un combat qui rejoint celui de ce soir. Donc je voulais juste dire que nous aussi, dans le cinéma, on est des artistes de couleur, donc non blanches, et que là aussi, il y a un combat à mener. Donc évidemment, on a été entendus, mais ça passera par après, quoi.
Toujours après. De quelle couleur êtes-vous ?
Non blanche. Voilà.
Je peux juste dire quelque chose, que je pense que la question de la parité va être l'outil très important du gouvernement actuel contre, justement, la question de l'égalité homme-femme va être absolument l'arme du gouvernement actuel contre les politiques de décolonisation.
Oui, alors bonsoir, je voulais simplement dire que j'étais moi aussi aux assises de 50-50 par 2020 la semaine dernière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les ateliers ont commencé en avril dernier et on s'était mis d'accord avec un certain nombre de femmes noires qui sont dans l'industrie du cinéma de faire en sorte qu'il y ait au moins toujours l'une d'entre nous à une des tables rondes pour que justement, alors bon, on est dans le monde du cinéma, donc on emploie le terme diversité parce qu'on ne va pas jusqu'aux questions raciales, c'est trop loin. Mais pour qu'au moins on puisse à chaque fois ramener sur le tapis le fait que toutes les femmes ne sont pas blanches, que toutes les femmes ne sont pas valides, etc. Et que puisqu'actuellement, effectivement, ce qui est à peu près accepté comme discussion dans le monde du cinéma, c'est la parité, que ce ne soit pas l'occasion de jeter sous le bus toutes les personnes qui ne sont pas des femmes blanches, puisque c'est finalement un petit peu ce que sont les discussions aujourd'hui. Et donc, effectivement, des mesures ont été annoncées. Et ces mesures concernaient, sans surprise, la parité. Donc c'est très bien, c'est un premier pas. Mais la question, c'est qu'effectivement, on reste un peu toujours dans la chanson de Nina Simone de « Allez-y lentement, attendez demain, ça va venir ». Et effectivement, si on n'est pas là à lutter et si on n'est pas toujours plus nombreuses et nombreuses, donc je suis ravie qu'il y ait autant de monde ce soir, et j'en profite pour faire l'appel que je fais à chaque fois que je suis dans des assemblées, il faut vraiment que les personnes qui ont envie de faire du cinéma s'y mettent. Parce que le problème, c'est que tant qu'on n'est pas une certaine masse critique, ben voilà, on est deux par assemblée à chaque fois, donc on essaye de s'alterner les interventions qui sont soit effectivement posées et articulées, où moi j'explique qu'il faut mettre en place des mesures correctrices d'inégalités basé sur les BBC Targets en Angleterre, et puis parfois il y en a une autre qui va s'énerver en criant « Est-ce qu'on pourrait arrêter d'être patient et de nous demander d'attendre alors que vous avez toutes et tous le pouvoir ?» Et là aujourd'hui j'en profite vu qu'il y a aussi des blancs dans l'Assemblée. Vous avez le pouvoir de prendre des élèves en stage de 3e qui ne sont pas les enfants de vos amis, surtout si vos amis ne sont pas non blancs. Il y a un certain nombre de choses très pragmatiques et très simples qui peuvent être faites pour que justement, quand la photo... Alors effectivement, là, je crois qu'il y a 2 élèves racisés sur les 60, enfin sur les 65 nouveaux élèves de la FEMIS. Et souvent, ce que je dis aussi, ce serait intéressant en termes de classe sociale et d'origine de savoir si ces élèves racisés sont français. Parce que souvent, quand on est dans des grandes écoles, les élèves racisés sont des enfants de diplomates africains, etc. Moi, quand j'étais à Sciences Po, par exemple, on était 200 et j'étais la seule noire qui était en fait une noire française. Quand il y en avait qui passaient, c'était des enfants de diplomates. Donc voilà, il y en a 2 de racisés effectivement à la FEMIS actuellement. À ce rythme-là, le changement de perception dans le cinéma français, sachant que je ne sais même pas s'il y en a à Louis Lumière et dans les quelques autres écoles, on n'est pas arrivé. Donc en fait, ça commence par les stages de 3e, ça commence par le fait que si les gamins ne savent même pas qu'ils peuvent faire des carrières en cinéma, bah, ça ne va pas changer. S'ils ne savent pas qu'il y a des fondations qui donnent des bourses, il y a culture et diversité, etc., etc., pour aller dans ces écoles-là, bah, les écoles ne vont pas être diversifiées. Et s'il n'y a pas ensuite en retour une volonté des pouvoirs publics de faire en sorte que les choses changent, ça ne va pas non plus changer, ou en tout cas pas sur nos temps de vie. Donc voilà, c'était pour dire qu'effectivement, 50-50 par 2020, et la question de la parité va être une chose à devoir surveiller si on ne veut pas effectivement que ça devienne un nouvel outil pour nous effacer, et c'est d'une certaine façon déjà en train de se passer.
La question est celle évidemment de la parité et également de la question est économique. C'est aussi celle des moyens de production qui sont offerts et proposés à tout un chacun et une chacune. On a ça au cinéma, évidemment, et Amandine Gay en parle dans son texte, la question de la réappropriation nécessaire des moyens de production, mais évidemment aussi au théâtre,
D'être cabale, toi qui es donc dans la sphère théâtrale, c'est aussi un problème contre lequel tu ripostes. Et le terme est choisi parce que sa compagnie s'appelle Riposte.
Bonsoir. Je suis fatigué. Je me suis rendu compte, en écoutant l'extrait de mon texte, à quel point ce que j'ai écrit réanime une colère qui est vraiment là. Et surtout, à quel point ce que j'ai écrit est beaucoup, beaucoup plus petit que la colère qui m'anime sur ces questions-là. Et je voudrais dire merci à tous les auteurs et autrices qui sont là, parce que c'est très, très rare de passer autant de temps à écouter des textes qui nous parlent à cet endroit-là précis. Et finalement, on se dit, il était temps. Il était temps que ça existe, il était temps que ça sorte. Et en fait, pourquoi je dis que ce texte est plus petit que ma colère, c'est parce qu'en fait, quand on écrit, on sait qu'on est en pays blanc. Donc on écrit pour tout le monde, en fait. On écrit pour vous, pour nous, pour ceux qui nous connaissent, ceux qui ne nous connaissent pas. Et en fait, on est obligé, je dis on, mais peut-être je devrais dire je, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est obligé de faire un trajet vers l'autre pour qu'il puisse entendre ce qu'on a à dire. Et c'est précisément ce qu'on reproche aux élites, de ne pas faire un pas vers nous et de ne pas nous prendre en compte. C'est pour ça tout ce que j'ai entendu sur les esthétiques de la danse, sur le travail des accents, sur comment on veut gommer et uniformiser, m'intéresse énormément, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que tous les gens qui sont là et qui ont écrit ces textes racontent avec quelle simplicité il est possible de prendre l'autre en compte quand on s'adresse à la mer, quand la bouteille part à la mer. Et effectivement, dans le monde du théâtre, je suis un peu une espèce d'alien. Je viens du rap, truc de ouf. Et donc, on peut faire du rap et arriver au théâtre et puis monter des productions et essayer de porter des projets ambitieux. Et moi, je me suis trouvé un endroit un peu particulier parce que finalement, vu là où j'en suis aujourd'hui, j'ai un parcours plutôt... j'ai pas à rougir et on n'est pas nombreux. Et donc je me retrouve dans cette place un peu bizarre où je pourrais me réjouir de ce qui m'arrive en faisant comme si je ne voyais pas les difficultés. Ça aussi, on sait très, très, très bien faire. Et aussi me dire, mais pourquoi on est si peu nombreux ? Et c'est vrai que j'ai l'impression que les choses ne vont pas aller en s'adoucissant. Parce qu'à partir du moment où on se met à parler, on dit à nos interlocuteurs qu'ils ne peuvent plus nous infantiliser. On dit à nos interlocuteurs que on a bien écouté tout ce qu'on dit depuis 10, 15 ans et qu'à un moment donné, on a envie d'être pris au sérieux. Et moi, j'ai vraiment vu ce truc, ce que j'appelle le syndrome du videur de boîte. Les gens de ma génération connaissent. C'est que tu vas en boîte quand tu es jeune, dans les années 80-90, et puis on dit pas de basket. Ok. Tu reviens la semaine d'après, tu te sapes, et on dit faut venir accompagner. Ok. Tu reviens la semaine d'après, tu es habillé, tu es accompagné, et on te dit ce soir, c'est privé. Et ça ne marchera jamais. Et c'est tout le temps comme ça. Et quand vous vous retrouvez devant quelqu'un qui vous dit « Ah, c'est marrant, tu fais un spectacle sur la condition masculine, mais il y a vraiment beaucoup de femmes sur le plateau, donc ça ne m'intéresse pas. » Bah ouais, fallait venir accompagner, fallait pas mettre des chaussures, et ce soir, c'est privé. Et les gens ne savent pas qu'on reconnaît tous ces mécanismes parce qu'on est habitué et qu'ils sont intégrés chez nous. Et donc, j'ai le sentiment que, effectivement, on est dans ce piège. On est un peu visible. On nous aide suffisamment pour exister. Et on sait que ce n'est pas assez. Et on sait que quand on va dire que ce n'est pas assez, on va nous dire de quoi tu te plains. Et on va nous dire, et les autres, toi, regarde ce que tu as. Et à un moment, on va dire, en fait, ce jeu-là, j'ai plus envie de le jouer. J'ai envie de vous dire la vérité de ce qui se passe. Parce qu'entre le moment où on s'est rencontrés et aujourd'hui, 10 ans sont écoulés. Et effectivement, quand j'avais 34 ans, je vous laissais vous adresser à moi comme si j'étais un enfant. Mais maintenant, j'en ai 44. Et ça change un petit peu.
Est-ce que la salle a des questions ? Veut rebondir, poser une question, réagir ? Oui ?
Bonsoir. En fait, moi, je fais une recherche chorégraphique à partir des danses du monde arabe et berbère depuis 20 ans. Et j'ai toujours été autofinancée, enfin je me suis autofinancée, j'ai été danseuse de cabaret parce que le cabaret c'était très bien si je restais reléguée à cet endroit. Ensuite, on a fait des spectacles dans le socio-culturel. Là, ça marchait très bien. Et depuis ces dernières années, j'ai envie d'accéder au réseau de danse, on va dire, J'y accède de temps en temps, mais il y a toujours du recul. J'ai été rencontrer le ministère de la Culture via un inspecteur de l'enseignement aussi qui voulait un peu mes lumières sur le territoire danse orientale. Et eux, leur question, c'était, comment dire, on ne voudrait pas qu'il y ait une notion de nationalité. Donc, ils voudraient parler de danse régionale de France. Et je dis, mais quand même, moi, ça, ce qui me dérange dans la... Dans le, comment dire, c'est-à-dire, c'est une, pour moi, la danse arabe, c'est un enseignement spécifique, même si on fait un tronc commun qui serait un diplôme d'État. Moi, je pense qu'une option spécifique serait tout à fait adaptée, même en danse africaine ou autre, parce qu'il y a des spécificités du corps, une approche aussi de ce qu'on donne à voir. C'est une énergie qui danse, c'est pas comme une danse de forme formelle. Et aussi, on ne peut pas être réduit à un mouvement, parce que c'est des danses qui transportent beaucoup de spiritualité et de symboles, et moi j'ai envie de parler avec mon corps en arabe, donc ça fait que bon, j'étais un peu militante. Bon. Cette année, j'ai été invitée aux rencontres chorégraphiques de Carthage grâce à Mariam Gelouz, qui a invité trois personnes qui faisaient de la danse arabe à la base, donc moi et deux autres chorégraphes, Alexandre Polikevitch et Nadia Saïji, et nous on avait 15 minutes chacun, c'était déjà beaucoup. Parce que sinon, en Tunisie, donc, tout le monde fait de la danse contemporaine. Et on trouve tout à fait normal que chaque chorégraphe tunisien a suivi l'enseignement de Preljokaj ou de Kirsmaker ou de tous les chorégraphes qui sont passés par là-bas. Alors je trouve ça magnifique, hein, j'admire beaucoup ces chorégraphes. Mais moi, ça me pose question, pourquoi, si on veut que les gens soient interpellés par la danse, pourquoi on ne puisse pas dans leur histoire? Pourquoi mon histoire de danse, enfin moi, mon corps, j'ai jamais, comment dire, censuré la moitié de mon corps. C'est-à-dire que moi, je parle d'une danse qui englobe le ventre, qui englobe tout le corps. Donc, je veux dire, mon militantisme est là. Je dis pourquoi l'universalité serait dans la danse contemporaine occidentale et que nous, on devrait effacer tout ce qu'il y a comme richesse, quelle que soit la région. Moi, je m'occupe du Maroc jusqu'au Golfe. Et vraiment, c'est une richesse infinie, c'est de la connaissance. Et on ne peut pas mettre cela en avant parce que dans cette société, on doit montrer patte blanche, littéralement. Et donc, il faut édulcorer, je ne sais pas. Je parle de mon expérience. Alors, après 20 ans, c'est un petit peu fatigant, comme monsieur l'a dit. Mais on continue, voilà. Et je suis très contente que votre événement ait rencontré autant de succès. J'avais déjà assisté à la conférence de Selwa Boulbina sur les damnés de la Terre. Elle nous avait fait un petit topo là-dessus et c'était vraiment intéressant. Et voilà, je trouve ça très chouette qu'il y ait du mouvement, voilà, et que les gens s'expriment par rapport à ces questions.
Alors... bonjour, je vais me permettre de continuer la discussion avec vous. Donc moi c'est Sandra Sainte-Rose Franchine, c'est moi qui ai écrit le texte sur la danse. Je suis désolée de vous dire que non, ce que vous faites dans la danse orientale, sur les différentes danses orientales que vous portez, le travail que vous portez, a des chances assez minces d'intéresser l'institution. Moi, je suis danseuse hip-hop, c'est un petit peu la même chose. Et pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que le matériau que vous utilisez est un matériau qui ne rentre pas dans les formats. Voilà.
De danse orientale dans des centres d'animation et ça leur posait question, mais moi je suis plus embêtée de voir des gamines de 6 ans s'habiller en lampe d'Aladin et faire la danse du ventre, parce que ça c'est une danse commerciale et c'est relié à rien sauf à une image que se fait l'Occident de l'Orient.
Mais c'est ce que j'ai dit dans mon texte.
Voilà, c'est une bulle et moi ça m'énerve de ne pas exister, parce que c'est pas cette danse là dont je parle. Moi je voudrais puiser dans l'histoire des Arabes et des Berbères avec tout ce que ça a comme richesse, et ça couvre des géographies de tout le monde arabe, quoi, et berbère.
Voilà. Écoutez, je vous encourage à continuer. Maintenant, il va falloir trouver une stratégie pour pouvoir le faire en dehors des réseaux institutionnels Et une fois que ce que vous aurez fait sera suffisamment conséquent pour attirer leur attention, peut-être à ce moment-là qu'on va vous écouter. Mais en fait, il faut frapper du poing sur la table. Je finis ma phrase. Par exemple, dans l'idée de continuer ces questionnements sur la danse, on a été amené à rencontrer une chorégraphe martiniquaise qui vivait en France avant et qui maintenant est installée en Martinique pour pouvoir faire librement son travail et se questionner librement, sans contrainte esthétique, sur ce qui l'intéresse en tant que femme racisée. Elle s'appelle Annabelle Guerredra. On lui a demandé comment est-ce qu'elle se débrouillait pour diffuser son travail. Parce qu'il y a la question de la production et il y a aussi la question de la diffusion. Elle s'adresse plus à la France. Elle développe des réseaux en Amérique du Sud, etc. Donc je vous encourage à continuer votre travail, mais il faut trouver une stratégie parallèle. Et une fois que cette stratégie-là aura porté ses fruits, vous serez en position de force pour éventuellement discuter avec l'institution française. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous serez soumise à des dictats esthétiques français. Voilà.
Je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouve que ça pose la question et ça va dans le sens de ce que dit Sandra et de ce que vous dites, madame. Je pense que ça pose une question qu'on se pose souvent à décoloniser les arts, qui est la question du répertoire, de comment est-ce qu'on constitue un répertoire, de qui constitue le répertoire, et donc de nos interventions à nous dans les différentes strates à la fois d'enseignement, de formation, mais même à des endroits de proposition de projets, parce qu'en fait on se rend compte que quand on propose un projet à des personnes qui sont majoritairement blanches, qui ne connaissent pas l'histoire de ces danses dont vous parlez, qu'on appelle orientales, mais enfin on parle pas que de l'Orient, et c'est pas un Orient qui est effectivement fabriqué comme on peut l'avoir dans le belly dance, etc. On est face à des personnes qui sont profondément ignorantes et qui ne reconnaissent jamais leur ignorance. Sauf que le pouvoir est de leur côté. Les moyens de production sont de leur côté. Comment faire pour faire en sorte que ces personnes puissent s'intéresser à ces projets, puissent les financer, puissent leur donner une juste place? Et ça, c'est une question qu'on se pose sans cesse avec Décoloniser les arts. Et je veux pas dire qu'on n'a pas la réponse, mais en tout cas, c'est très important de se dire que... C'est très important de se dire, exactement comme dit Dé, en fait... On sait très bien, quand vous nous répondez, que ça ne rentre pas dans les cases, ou quand vous nous répondez qu'il faut changer telle ou telle chose au projet, en fait, vous êtes en train de nous dire que nous n'existons pas dans les catégories dans lesquelles vous pensez. Et il va falloir que vous changiez. C'est à vous de changer. C'est à vous de changer les catégories et c'est à vous d'apprendre de nous, d'apprendre ce que nous avons à partager avec vous. Voilà, je vais juste dire ça.
J'apporterais plutôt, je questionnerais ce qu'on appelle la danse africaine ou la danse orientale. Je pense que ça n'existe pas déjà, ce sont des termes, d'une part. La deuxième chose, c'est que pour nous, à Décoloniser les arts, vraiment la question de l'éducation et de la formation est très importante, la question de la production évidemment, mais nous on pense aux générations, à tous les jeunes qui arrivent et qui ne trouvent pas de place pour penser. On veut même déconstruire ces idées de danse orientale, danse africaine ou danse, je sais pas quoi d'ailleurs, begin ou je sais pas quoi, enfin j'en sais rien. On veut vraiment penser même la pédagogie différemment. La question de la manière d'enseigner. Comment on enseigne ensemble? Comment on se co-éduque? Donc nous, on veut aller même, si vous voulez, c'est pas simplement, bien sûr, je comprends toutes les difficultés de chacune et de chacun, de trouver des productions, de trouver de la place, de trouver... mais On comprend ça et on accompagne, on veut l'accompagner. Mais décoloniser les arts, c'est d'aller vraiment à la racine de la chose, à la racine de la chose et transformer. On ne veut pas être intégré dans le récit national. On ne veut pas être intégré dans cette France telle qu'elle est aujourd'hui. C'est une France capitaliste, raciste, de classe sociale qui écrase les gens, où la pauvreté augmente, où les gens sont absolument exclus. On ne veut pas en faire partie. On ne veut pas en faire partie, même si on nous offre une magnifique scène. Il faudrait, je veux dire, ce qu'on pense, c'est plutôt, effectivement, cette production, cette fabrication quotidienne d'exclus, quotidienne, d'enfants qui ne trouvent rien à l'école qui leur ressemble, d'enfants qui ne trouvent rien à l'école qui parle d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, qui les coupent de leur monde et du monde, et qui leur font croire à un monde totalement artificiel et inexistant, qui est un monde blanc où tout se passe bien, où si tu peux, tu peux, t'as qu'à prendre ton énergie, etc. Mais on sait bien que tout ça, c'est de la rigolade. Hein ? T'as qu'à traverser la rue, tu trouveras du travail. À décoloniser les arts, on veut, et on ne veut pas justement, pour revenir à la question de la parité, on ne croit pas à cette question du binarisme des genres, on ne croit pas qu'il y a des femmes et des hommes seulement, on pense qu'il y a d'autres genres, qu'il y a des personnes, donc on veut aller plus loin, on veut creuser. C'est pour ça qu'on disait que le chemin pour nous sera long et difficile. Il y a des choses à faire à court terme, c'est vrai, des choses à faire pour les personnes qui se battent aujourd'hui, des formes de syndicalisme, et c'est très important, mais comme le disait Gertie en introduction, en ouverture, décoloniser les arts a voulu aller plus loin, a voulu porter quelque chose de plus ambitieux et de certainement d'une chose que nous apprenons en apprenant. Nous n'avons pas toutes les réponses tout de suite, mais nous voulons aller plus profond. Parce que sinon, il y a eu des combats comme les nôtres auparavant et il y a eu des victoires. Mais en 2018, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Il n'y a pas vraiment d'enseignement décolonial dans les universités, dans les écoles d'art, de théâtre. Il n'y a pas d'enseignement décolonial dans nos écoles. Les enfants continuent à apprendre une histoire mutilée, à être mutilés dans leur être. C'est ça qui nous importe. C'est pas que nous obtenions une place, c'est que vraiment pour que cette société profondément inégalitaire, profondément raciste, nous lui tournons le dos. Nous voulons pas simplement en être.
Bon, moi, je suis d'accord, Françoise, mais c'est vrai qu'il y a la révolution et après, il y a la possibilité de quand même mener des carrières et faire... Tu vois, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai, on veut manger aussi. Non, je sais, je plaisante, Françoise. Ce que je veux dire... C'est pas ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a le niveau de la l'éducation, etc. Et puis effectivement, il y a un niveau plus pragmatique. Et je pense que c'est intéressant aussi qu'on puisse, on va dire, dialoguer entre des perspectives qui effectivement et qui sont pas en plus contradictoires. On peut vouloir un changement sur le long terme, mais effectivement arriver à faire en sorte que la société dans l'ensemble se décolonise, d'arriver à faire changer le monde de l'éducation nationale, etc. Mais on sait aussi pertinemment que tant qu'on est entre nous, et là c'est très bien, mais je veux dire, on est à la colonie barrée. C'est aussi ça la question. Moi, je veux dire, j'en reviens au cinéma. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse d'être sur ce médium-là ? C'est parce que c'est le médium qui est le plus accessible. Et je veux dire, j'aime beaucoup le théâtre, mais c'est clair que si on veut aller vraiment parler à un peu n'importe qui, le cinéma, c'est plus pratique. Les séries, c'est plus pratique. Et du coup, la question, effectivement, on en revient à la question des moyens. C'est que l'enjeu, c'est tant qu'on se parle entre nous et en personne que ces sujets intéressent, c'est super. Mais en fait, c'est toujours pas nous qui sommes à la tête des écoles comme la FEMIS. Les chiffres, ils sont en plus justement dans le livre, dans Décolonisons les arts. Tant qu'on n'a pas un minimum de place dans les structures de pouvoir, tant qu'on n'arrive pas à récupérer les subventions, les financements institutionnels, et j'en reviens à mon exemple, c'est pas possible aujourd'hui qu'il y ait quelque chose qui s'appelle la taxe sur l'audiovisuel, qui est 10% qui est prise sur les tickets d'entrée de cinéma, qui permettent de financer le CNC, donc le Centre National de la Cinématographie. Alors cette taxe est une très bonne idée. L'idée c'est que tout le monde contribue au cinéma d'art et essai, au cinéma d'auteur, et donc finalement l'argent des blockbusters et des gros films fait rentrer de l'argent dans les caisses du CNC qui ensuite le redistribue et permet l'existence d'un cinéma art et essai. À partir du moment où moi je suis obligée de faire un film autoproduit et autodistribué pour exister et avoir un film qui sort en salle, est-ce que c'est normal que l'institution qui ne me donne pas de subvention dans le pays dans lequel je suis née, où je paye les impôts et où donc je suis citoyenne, reçoivent ensuite de l'argent de mon projet autoproduit et autodistribué. Et donc moi, je suis solidaire du cinéma français blanc qui ne me donne pas d'argent. Ça, c'est pas possible. Et là, je veux dire, c'est la question de l'égalité en droit et de plein de choses dont c'est sûr que, je veux dire, moi, j'ai vraiment envie effectivement que les esprits changent, mais il y a des choses très techniques qui font que quand on nous pousse à la marge et qu'on nous force à faire nos projets en autonomie, moi, en fait, je veux mes sous. Et même si sur l'industrie du cinéma qui fait des millions d'euros, je veux dire, mais 6 000 et quelques, c'est rien du tout, mais en fait, ces 6 000 là pour mon prochain projet, bah, c'était autant d'argent que j'ai pour vivre et qui fait que j'aurais peut-être pas eu besoin de cachetonner de conférencière comme je fais en ce moment. Donc voilà, c'est aussi ça. Je pense qu'on est un certain nombre sur ces lignes-là. En tout cas, moi, ma ligne, c'est donnez-nous notre argent. Pour l'instant, on est citoyens ici, on contribue, donnez-nous l'argent.
On est tout à fait d'accord. Et quand on fait... Tu sais comment on a lancé cette publication, donc elle a fait collectivement, on a les personnes qui sont à la direction n'ont rien touché, l'université on l'a fait, donc on est tout à fait dans le pragmatisme. Quand je disais la question de changer les choses, c'est pas à long terme, c'est pas abstrait pour moi, c'est tous les jours, dans un espèce de travail lent que chacun et chacune d'entre nous fait. Mais si tu veux, c'est pour dire que c'est pas simplement, on ne cherche pas simplement à avoir une place. C'est ça que je veux dire. De la même manière que quand tu dis que tu fais du cinéma parce que le cinéma, ça touche beaucoup de personnes, on est tout à fait d'accord, on est tout à fait pour ça. Mais on est aussi pour le fait que justement l'enseignement dans les écoles de cinéma change, parce que sinon, même si on est là à la tête et que l'administration résiste, les enfants qui vont rentrer, ils n'auront pas. Donc c'est tout est en même temps. Je veux dire, moi, je suis pas pour la révolution dans un futur lointain, je sais pas quoi. Je suis la révolution tous les jours. Tous les jours, voilà, il faut... Je veux dire, rien n'a été changé sans bataille, comme tu le sais. Donc c'est ça que je voulais redire, c'est que rien n'a été changé. Ils ne nous donneront rien. On arrachera tout.
Non, mais ce qu'on entend, donc c'est Loi Lustebulbina, ce qu'on entend, ce sont aussi des conséquences, enfin, les effets d'expériences différentes. Moi, j'aurais une question que j'adresse à Leïla Kuckerman, justement, qui est une des co-ordinatrices de ce volume. Et je voulais savoir ce que vous pouviez nous dire de la transformation que vous avez tentée, réussie, etc., de la pratique en matière théâtrale, puisque c'est votre métier.
Oui, comme directrice d'un théâtre, anciennement, oui, voilà. Mais comment expliquer ? Comme dit Françoise, c'est à la fois au quotidien et à la fois en s'adressant à construire du futur, à tenter de construire du futur. Moi, ce qui me tenaille, c'est les témoignages qui figurent dans l'ouvrage et qu'on entend à chaque fois qu'on fait une rencontre décoloniser les arts, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de nous n'avons pas, il n'y a pas d'égalité en droit d'accès aux moyens de production artistique, et en même temps le sentiment que j'ai eu moi comme directrice de théâtre, de l'empêchement de recherche, de pistes nouvelles de recherche de travail artistique par ce fait-là. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que l'art théâtral ou toutes les dimensions disciplinaires hein, de l'art au théâtre, du théâtre, de la scène, tous les arts de la scène, donc en fait, s'étouffent, se sclérosent à force d'un entre-soi, de quelque chose qui se regarde faire sans convocation à la relation de l'ensemble du peuple, du peuple français, quoi. Voilà. Et alors, c'est à deux niveaux pour moi, c'est-à-dire qu'il y a d'une part les artistes qui ne peuvent pas, et d'autre part cet art qui est en train de s'étioler, enfin, c'est le constat que je faisais moi quand j'étais directrice. Et en même temps, les expériences qu'on a faites étaient des expériences à Ivry qui étaient relativement, qui s'inscrivaient dans le temps, mais qui étaient aussi courte et aussi limitée, parce que je voyais bien que le relais n'était pas pris par l'ensemble des directeurs et directrices de théâtre interdisciplinaire, hein, pour faire tourner, pour faire, parce que pour moi le travail artistique, c'est ce que j'essaye de dire, hein, le travail artistique c'est pas quelque chose qui est donné en soi d'une manière génial à l'artiste. C'est un travail, c'est un processus. C'est un processus qui s'inscrit dans la durée pour l'individu et qui s'inscrit dans le temps aussi pour faire travailler les choses. Donc c'est pour ça que moi j'ai inscrit des choses, j'essaie d'inscrire des choses avec des artistes dans la durée. Et puis après, ben, on se rend compte que quand le relais n'est pas pris, on se met en colère. On a une colère rentrée comme celle de D, et on trouve. Moi, je suis très en colère avec l'institution culturelle et artistique en France. Je suis très très en colère avec mes collègues. Voilà, parce que je trouve qu'ils ne prennent pas de risques, et que si l'institution culturelle et artistique a existé, c'est précisément pour que le risque soit pris, pour que les artistes puissent se risquer et que le public puisse se risquer à inventer d'autres types de relations.
Bon. Moi je prends la parole et je me lève parce que je veux mettre un peu d'énergie là-dedans. Y a un truc qu'il faut, il y a une chose à laquelle il faut absolument qu'on fasse attention. Et je crois que c'est ça pour moi décoloniser vraiment. C'est à ne pas être rassemblé pour dire aux gens qui ne sont pas là qu'on attend quelque chose d'eux. Donc, moi, quand je tourne les yeux et que je regarde les gens qui sont autour de cette table, malgré les difficultés de création, Rebecca Chaillon est une créatrice remarquable. Et elle fait un travail extraordinaire. Eva Doumbia, qui m'a invitée à venir galérer avec elle dans les cités nord de Marseille, nous avons galéré ensemble, mais nous avons fait un truc extraordinaire. Il y avait 3000 personnes sur la terrasse des grandes tables. Il y avait Kazé qui a cassé la table. Et Kazé est une interprète extraordinaire. Marine Bachelot, une Guyenne, qui est là, se fait défoncer la gueule par une espèce de bonne femme dont je vais dire le nom, même si on me dit tout le temps de ne pas la nommer pour ne pas lui donner d'importance. Une certaine Isabelle Barberis, qui fait partie de la clique de Laurent Bouvet et qui font tout pour qu'une pièce l'extrait que j'avais choisi au départ. Mais bon, j'ai des camarades qui ne sont pas toujours d'accord avec moi. Je voulais parler de cette pièce Aquila, dont Marine Bachelot-Nguyen a été privée de la réalisation parce qu'elle a été interdite par le rectorat. Enfin, pas tout à fait interdite, mais c'est très compliqué, en tout cas censurée. D'accord ? Karima El-Karaz, moi, elle m'a invitée à Marne-la-Vallée. Je trouve ça vachement loin. C'est Mantes-la-Jolie. C'est encore plus loin que Marne-la-Vallée. Je trouve ça vachement loin. Pourtant, elle a pris ses enfants de Mantes-la-Jolie, elle les a amenés à Casablanca. Et elle a pris les enfants de Casablanca, elle les a amenés à Mantes-la-Jolie, ça s'appelle Casamante. Et c'est formidable comme projet. Avec 3 francs 6 sous, avec un peu de francs, mais pas suffisamment de sous. Françoise Vergès, ça fait des années, je ne vous parle même pas de sa vie, elle n'arrête pas d'aller à gauche, à droite, parce que au Mexique, à Dar es Salaam, ici et là, pour porter cette parole forte qu'elle nous porte de temps en temps et que chaque fois que vous venez, vous partez. Et je vois sur Facebook, elle est géniale, cette nana, Françoise Vergès. Moi, vraiment, elle me fait triper, etc. Et pourtant, dans l'université française, on ne l'écoute pas. D'accord ? Mais on n'en a rien à cirer de l'université française, si c'est comme ça qu'elle est. Et c'est ça qu'on veut faire. Je suis désolée, hein, je n'avais pas prévu de faire un discours. Hein, je ne veux pas faire des discours, je ne veux pas devenir le chef Mélenchon. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est fort, c'est qu'on est riche, c'est qu'on est vivant, c'est qu'on est debout. Et face à ça, il ne faut surtout pas que notre soirée que nous avons réussi à faire ce soir, à vous avoir là, dans l'attente, dans la vibration qu'on sent dans cette salle, se transforme en... comment tu avais appelé ça, toi? Comment tu avais appelé ça, les gens qui pleurent tout le temps? Tu avais dit un truc? Il avait dit un truc, c'était vachement beau, mais il s'en souvient pas. C'était vraiment le bureau des racisés pleureurs. Le bureau des racisés anonymes. On ne veut pas de ça. Donc, en fait, vous n'allez pas trouver ça dans les textes qui sont dans l'ouvrage. Vous allez trouver des gens qui... Vous allez trouver aussi des propositions fortes qui sont faites par Françoise Vergès à la fin. Mais ce n'est pas des idées de Françoise Vergès. Il faut bien vous dire, elle a quelques idées. Mais le reste du temps, on fait des réunions, quoi. Et dans ces réunions, tout le monde a des idées. Et toutes ces idées-là, on vous les donne, on les partage avec vous. Mais surtout, on attend que vous nous en donniez. Mais des propositions positives, des propositions qui vont renverser la table, des propositions qui vont changer cette société et des propositions auxquelles ils ne s'attendent pas et qui leur tomberont dessus avec rapidité, avec une certaine violence, parce qu'il en faudra, et avec humour et détermination. Et sur ce, de façon totalement arbitraire, je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou une chose à dire, mais une chose comme ça, là, voilà. Sinon, on va boire un coup.
Bonsoir. Alors, ce n'est pas une question, voilà, c'est mes félicitations, bravo. Vous êtes, pour ma part, des incubatrices, des initiatrices, et donc aussi des représentantes. Et maintenant, il faut parler de représentativité, parce qu'il est temps d'avoir des représentativités positives, telles que les vôtres. J'ai pu, ces derniers temps... connaître plusieurs de vos actions, telles que Ouvrir la voie, le film, telles que 30 nuances de noir, telles que donc, plusieurs représentations des spectacles de Rebecca Chaillon et des textes de Françoise Vergès ces derniers temps. Donc c'est des représentativités, c'est-à-dire qu'on ne grandit, on ne s'épanouit que par ses pairs, favorablement. Donc il nous faut, dorénavant, en tant qu'afro-descendants, notamment, des représentativités positives, et vous les représentez très bien. Donc bravo, c'est des félicitations, et maintenant, bien sûr, des livres, la lecture est aussi fondamentale. Donc, continuons. Et le spectacle, bien sûr, radio des bonnes nouvelles, ça c'est vraiment aussi phénoménal. Et ça donne de l'essence, ça donne des envies d'initiation aussi, d'initiatrice de nouvelles choses. Et pour ma part, je suis à l'initiative d'une nouvelle association de visibilité et représentativité afro-caribéenne LGBTQI+. Et donc c'est en termes, bien sûr, engagés et militants que je propose des événements. Il y a une page Facebook, je vous invite à la découvrir. Sinon, le prochain événement, le 5 octobre, là, nous pourrons effectivement aussi danser. Et donc, avec des représentantes en première partie qui passeront le message de visibilité, représentativité afro-caribéenne, LGBT. Et merci.
Est-ce qu'Eva, tu voulais intervenir peut-être pour parler de la relation justement que tu crées dans tes ateliers, dans ton travail de metteur en scène, d'autrice?
Moi, je ne voulais pas parler de ça, mais effectivement, ça va revenir à ça. C'est que je voulais dire que décoloniser les arts, c'est un passage. C'est-à-dire qu'il faut décoloniser les arts parce que les arts sont colonisés, parce que les disciplines, parce que la culture est coloniale. Mais s'il faut décoloniser les arts, c'est parce que l'art est émancipateur. Et ça, c'est très important de se dire que l'art est émancipateur et que si tous les arts sont décolonisés, ils permettent à l'ensemble de la société de s'émanciper et à l'ensemble des personnes qui constituent la société, à l'ensemble des classes sociales, à l'ensemble des personnes qui habitent tous les quartiers, parce que il s'avère que je ne suis pas marseillaise, mais j'habite à Marseille et il y a un fort sentiment chez les Marseillais de coloniser, y compris chez les personnes blanches, puisque tout à l'heure, je parlais dans le texte, je parle du langage. Il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est de se dire que, par exemple, un comédien qui a un accent marseillais, on va lui demander d'enlever cet accent. Et moi-même, en tant que metteur en scène, quand j'ai commencé à travailler avec des Marseillais, je disais, non, mais ça, tu ne peux pas dire rose, comme ça. Et un jour, c'était à l'occasion de... d'une mise en scène d'Edouard Bond. Et j'écris à Edouard Bond et je lui dis, il a quel accent ton personnage? Et il me dit, il a l'accent il a l'accent populaire de là où il vit. Et je demande à un comédien qui avait fait l'Irak, je lui dis, est-ce que tu peux reprendre ton accent? Il me dit, j'ai pas d'accent. Je lui dis, si tu as un accent. Il me dit, j'ai pas d'accent. Je lui dis, t'as un accent, ta mère a un accent, ton père a un accent et ta sœur a un accent marseillais. Donc, toi, tu as un accent que tu as enlevé. Ça a été extrêmement violent pour lui et ça nous a permis aussi de discuter ensemble là-dessus, sur cette histoire du fait que, finalement, on a tellement intégré que nous-mêmes, qui sommes colonisés, on arrive à pratiquer la même chose sur d'autres, quoi. Et donc, moi la chose que je voulais dire, c'est que, finalement, la décolonisation des arts, c'est un moyen. C'est un moyen pour pouvoir permettre à l'ensemble de la société de s'émanciper. Bravo.
Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même à un moment charnière parce que la question de la diversité, entre guillemets, ça fait déjà quelques années qu'elle a émergé dans le milieu théâtral et artistique. Mais qu'encore une fois, et on le redit depuis le début, diversifier, c'est pas décoloniser. Et qu'aujourd'hui, on est dans un moment où les théâtres nomment un, deux artistes racisés, où il va y avoir des directions qui vont un petit peu changer, où les metteurs en scène blanches et blancs paniquent et se disent « il faut que je trouve des comédiens pour que j'ai pas des distributions que blanches ». Donc, il y a des choses qui changent, qui sont en train de changer, qui bougent, mais encore une fois, faisons attention et soyons vigilants par rapport à ce côté parfois un peu diversité washing, effet superficiel. Ça va devenir, par rapport au capitalisme dont parlait Françoise, ça va devenir aussi un marché, hein, d'avoir des gens de non-blancs sur ces plateaux, dans ces distributions, d'avoir des récits qui tout d'un coup se mettent à prendre en charge des histoires de racisme, de colonisation. Mais bizarrement, pour l'instant, beaucoup de metteurs en scène vont plus... Nous, en tant qu'artistes racisés, on attend qu'on raconte nos histoires, nos mémoires, mais pas trop non plus, pas de façon trop politique et politisée et décoloniale. Et souvent, il y a beaucoup de metteurs en scène, blancs et blanches ou dans la norme, qui disent « Ah tiens, je vais aller regarder une histoire de racisme des États-Unis. » Très peu de gens, en fait, affrontent notre histoire de France. Très peu de metteurs en scène blancs et blanches font des recherches sur le fait que on est aussi, en tant que blancs, descendants de colonisateurs. Et moi, en tant que, par exemple, je me suis vraiment à la croisée, ayant un père blanc et une mère vietnamienne. Et encore une fois, c'est pas des histoires de petites histoires, puisque toutes les histoires, elles se rassemblent. et pour voilà, pour sans. Il y a aussi ce dont parlait Gerti, mais je ne veux pas revenir sur mon cas personnel, mais voilà, parce que je suis allée toucher un endroit qui parle de l'islamophobie, du terrorisme, du foulard, qui sont des sujets super brûlants, et de l'éducation nationale, parce que c'est voilà, on cherche aussi à il y a des effets de censure de certains récits, les récits qui questionnent, les récits les plus politisés, et qu'effectivement aujourd'hui il y a des forces réactionnaires qui ne veulent pas que les idées décoloniales passent, parce que ça met en péril, selon eux, cette France aux racines blanches et chrétiennes, et que il y a quelque part, puis avec ces idéologies complètement nauséabondes, d'islamisation, de grands remplacements, ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment un terrain idéologique, et effectivement que ce soit nous à décoloniser les arts ou d'autres mouvements antiracistes qui soient traités de racistes ou de racialistes, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur la théorie. Il y a des questions qui sont extrêmement complexes, mais en tout cas, voilà, comment cheminer pour qu'on ne nous fasse pas taire, et comment des voix des voies décoloniales authentiques, il n'y a pas d'authenticité puisqu'on est aussi toujours en déconstruction les uns les unes les autres, et on chemine en zigzag, on fait ce qu'on peut, mais comment ces voies-là peuvent se faire entendre dans l'institution ou en marge, en fait c'est un combat qu'il faut continuer à mener, et être vigilant et critique sur les spectacles qu'on voit, sur comment tout d'un coup des metteurs en scène vont diriger des acteurs et des actrices dont ils n'ont pas l'habitude, et ils vont aussi commettre des impairs, et donc il faut être toujours en discussion. Ça crée aussi beaucoup de discussions dans les équipes, mais c'est comme ça aussi qu'on avance, qu'on se déconstruit, qu'on se décolonise petit à petit. C'est un long processus extérieur et complètement intérieur.
Être. Tu veux réagir? Vas-y.
Oui, en fait,
Merci. En fait, moi, je vais parler un peu pour l'art contemporain dont je suis issue. Effectivement, je fais partie d'un collectif. On a mis en place une revue d'art contemporain qui s'appelle Africada. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est la transmission. Pourquoi la transmission? Parce que quelque part, l'idée, c'est de comprendre pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, les idées dont nous portons aujourd'hui, des idées qui sont liées aussi à la pacification, pourquoi ces idées n'ont pas, n'impactent pas la société? Pourquoi ces idées dont nous défendons n'ont pas non plus un impact sur l'individu? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les discours extrêmes qui deviennent mainstream? Et du coup, quelque part, pourquoi aujourd'hui aussi, pourquoi ce sont les discours extrêmes aussi qui, quelque part, deviennent, je pourrais dire, visibles dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, et pourquoi aussi nos idées que nous défendons, nos pratiques que nous produisons, notre manière de repenser, la manière de théoriser sur l'art, de pratiquer et de montrer, de diffuser les nouvelles pratiques, pourquoi aujourd'hui, en termes de transmission, sont inaudibles. C'est pour ça que, quelque part, pour nous, il était important de questionner, de nous remettre en cause en termes de transmission, comment repenser la manière de transmettre nos savoirs. Et ce que je trouve aussi pour moi important de défendre, c'est aussi cette question à travers l'éducation. Et c'est pour ça que moi j'insiste qu'il est vraiment important par rapport à ce projet qui arrive sur décoloniser les arts avec les universités, qu'il est vraiment important de se mobiliser, parce que là, on va avoir pour une fois la chance de pouvoir venir partager nos savoirs. Ce qui est intéressant aussi dans les manières de partager les savoirs, c'est pas qu'il y a un sachant et un non-sachant, c'est que nous avons tous des savoirs qui sont différents, et comment à partir de nos différences on peut produire du commun. Et cette université va être un laboratoire. En tout cas, moi je suis très excitée, en tout cas, de pouvoir en fait participer à cette université qui va être où on va pouvoir expérimenter, on va pouvoir partager, on va pouvoir produire des nouveaux savoirs. On n'attend pas des institutions. Ça va se passer ici à la colonie. Et vous êtes les bienvenus pour produire ensemble avec nous cette université, pour pouvoir changer aussi les manières de transmettre les savoirs. Et le 8 octobre, Ça va être le premier jour de l'ouverture de cette université. Donc, je vous incite fortement à venir, à transmettre le message à tous les jeunes, où qu'ils soient, qui peuvent venir ici, en tout cas à 19h, apprendre des nouveaux savoirs, des nouvelles manières de pouvoir en fait s'émanciper. Et donc aussi, il ne faut pas oublier, on est là, c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir, cette publication, c'est déjà un premier pas si vous partez ce soir avec, pour pouvoir lire le contenu et aussi pouvoir le diffuser et le partager. Donc n'oubliez pas non plus pourquoi nous sommes là ce soir, à acheter, en tout cas à partir avec un petit livre bleu. Et ça fera plaisir à tout le monde. Et c'est une manière aussi de contribuer et aussi à nos luttes. Parce qu'il est important de se fédérer, de se mutualiser et aussi de se solidariser entre nos différentes formes de lutte.
Je dis juste un dernier truc. Je dis juste un dernier truc, c'est que pour continuer dans le fait de contribuer à nos luttes, il y a aussi des bulletins d'adhésion pour décoloniser les arts. Si vous avez envie de participer à la réflexion avec nous, d'adhérer, de voilà. Et Amandine qui veut encore.
Voilà, c'est l'instant marchand de tapis. Mais bon, en même temps, voilà, il faut pas blaguer. Tout à l'heure, j'ai dit, on veut l'argent. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont de l'argent, vous pouvez aussi soutenir Décoloniser les Arts. C'est super cool de faire des événements comme celui-ci et qui sont accessibles à tout le monde. Mais effectivement, c'est aussi bien de pouvoir soutenir les institutions ou en tout cas les associations qui lancent ce genre d'événements. Donc voilà, vous pouvez acheter un livre, vous pouvez payer un verre à la colonie qui nous accueille ce soir. Vous pouvez même donner de l'argent à faire une quête laïque. Ah, c'est bien ça, non? Et vous pouvez donner des sous à Décoloniser les Arts si vous voulez. Voilà, merci.